laisse enfin pleuvoir tes pleurs si longtemps retenus. Laisse petit mec, ton carnet de chèque, clé de coffre et de voiture, ton permis de chasse, ta peur, ton angoisse, ton cœur avec ses fêlures, ton âme en ruine, sans phare, sans frime, redevient tes pleurs si longtemps retenus, enfin coulent sur ta joue, ton bateau qui s'était perdu sur la plage, enfin s'échoue.
Elle se caresse en m'ignorant, moi qui les mate en me noyant. Elles sont si belles et si troublantes, si profondément émouvante. Sous l'œil de la lune en épure, leur ombre au bord de la piscine ondule avec leur chevelure brûlant d'une féerie libertine. Leurs lèvres tremblent et se bousculent dans un grave et léger baiser, tandis que leurs doigts manipulent la soie de leurs seins dégrafés. Elles se caressent en m'ignorant, moi qui les mate en me noyant. Elles sont si belles et si troublantes, si profondément émouvantes. Une main sur le ventre de l'autre, elles goûtent au satin de leur peau sans que leur désir ne se sauve, ne se perde au bout de leurs mots. Elles ont la grâce et l'élégance fragile de la peinture flamande, et je contemple le silence des nuits de Mytilène Island. Elles se caressent en m'ignorant, moi qui les mate en me noyant. Elles sont si belles et si troublantes, si profondément émouvantes. Caresse en m'ignorant, moi qui les mate en me noyant.
Un sarcophage de béton, triste présage, macabre nom, une fragile chape de plomb.
Thank you. Hop, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, bien sûr, sans sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde, Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est Métro République au fil du calvaire et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. Alors, on est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Patrick de Haas. Hein. Voilà, avec bien sûr Monique à la réception, qui est partie jeune à la réception. Tu as vu le bon lapsus ? Dès que Monique me quitte, je suis perdu, là. Voilà, aux manettes, comme d'habitude, depuis si longtemps. Alors, Patrick de Haas, cinéma absolu avant-garde, 1920-1930, maîtrée édition, un pavé de 800 pages. Pour le faire, combien de temps pour faire ça?
Oui, mais il y a des images, donc on peut.
Combien de temps pour faire ça?
Pas mal de temps, non, c'est vrai. Mais entrecoupé, parce que ça s'est fait en plusieurs temps, justement, puisqu'il y a une première mouture qui est sortie il y a déjà un bon bout de temps, en 85, puis il était complètement épuisé. Ça s'appelait Cinéma Intégral, donc pas encore Cinéma Absolu.
Ça va parler,
et puis, donc quand il a fallu le rééditer, j'ai voulu en profiter pour augmenter les choses, et puis ça c'est... Je me suis pris au jeu, d'accord. Et donc j'ai pas mal augmenté... avec différentes informations que j'avais eues depuis.
D'accord.
Donc c'est un peu mis à jour. Quoi,
je te rassure, ça pourrait être fastidieux. Félicitations, ça ne l'est absolument pas. Ça ne l'est absolument pas parce que ce n'est pas du tout universitaire. C'est très vivant. Ça permet de redécouvrir des gens qui n'ont pas été occultés, mais on ne connaît pas bien leur importance sur le cinéma intégral ou absolu ou expérimental, comme le Fernand Léger. J'y retrouve à plusieurs reprises mon copain Robert Desnos. Donc oui, ça peut être que très bien. Et on se demande, mais comment tu as travaillé? Tu es parti d'une idée initiale, et après des choses sont venues se greffer ou...
Ben, au tout début, j'étais étudiant, donc à la Cinémathèque, il y avait un programme qui était relativement régulier, qui était programmé par Henri Langlois, du temps où il était directeur, et qui s'appelait Cinéma Dada et Surréaliste. En général, ça passait le samedi ou le dimanche, une séance à 15h. Mais vraiment régulièrement, et c'est là où j'ai vu des films de Man Ray. Je me suis dit, mais là, vraiment, ça ressemble à rien de ce que je connais par ailleurs. Alors, j'allais souvent à la Cinémathèque, pas pour des raisons cinéphiliques ou de passionné de cinéma, mais parce que c'était moins cher à l'époque, c'était 1 ou 2 francs, quelque chose comme ça. Donc, c'était le moins cher à Paris, et donc, quand on n'a pas d'argent, on pouvait aller à la Cinémathèque. Mais après, je me suis aperçu que non seulement c'était le lieu le moins cher, mais aussi où il y avait les meilleurs films. Dans cette séance où il y avait des Man Ray, Léger, Duchamp, j'ai découvert ça, et bon, je me suis
Petite parenthèse, puisqu'on est sur Radio Libertaire, je crois que la dernière fois où j'ai vu Henri Langlois à la Cinémathèque, il passait Le Jour se lève de Carnet, comme ça, c'était et il est venu, il était très gros à l'époque, il était très gros à l'époque, et la veille, il y avait des gens d'extrême droite qui étaient venus lacérer l'écran à coups de couteau, de cutter, de ce qu'on voudra, et Langlois a fait un petit discours, alors qu'il était, il était un peu ventripotent, il avait du mal à se véhiculer, en disant, écoutez, si ça revient, vous prenez n'importe quoi, votre parapluie, n'importe quoi, il vous cogne dessus, vous vous défendez. Et c'était tellement iconoclaste par rapport à une morale que ça m'est resté dans la tête pendant tout ce temps-là. Mais je dis ça avant qu'on commence ce cinéma absolu avant-garde 1920-1930, parce que j'ai trouvé que ça dépassait de beaucoup le cinéma. C'est-à-dire que c'était en fin de compte, la découverte d'un langage nouveau, le cinéma, je crois qu'on va être d'accord, mais en même temps, c'est la morale esthétique, la morale politique, la morale morphologique, il y a toutes les morales qui sont remises en cause.
Oui, c'est entre esthétique et éthique. Enfin, c'est l'avant-garde avait ça comme projet, hein, c'est-à-dire à la fois renouveler les langages spécifiques de chacun des arts, éventuellement croiser ces arts entre eux, et aussi donner une dimension politique à cette révolution formelle, sans pour autant faire du cinéma militant ou social. Mais pour eux, le renouveau des langages portait en lui-même une dimension politique. Bon, c'est ça qui est souvent pas nécessairement bien compris quand on parle d'avant-garde.
En fin de compte, j'ai envie de dire que c'est une histoire de l'œil. tout ouais, ça. Ouais, on peut pas dire le contraire.
Oui, oui. Les questions un peu de bataille, mais bon, pas
oui,
trop.
Mais si, oui, mais oui, oui, c'est-à-dire l'œil va à une nouvelle exigence.
Oui, la perception. Oui.
La perception. Mais ça commence pas en 1910.
Non, bien sûr. On peut dire que ça commence dès le début du cinéma.
Ouais.
C'est les quand spectateurs sont impressionnés par l'entrée en gare de la Ciotat. Dans la mythologie, on dit qu'ils étaient effrayés de voir ce train qui allait percer l'écran. Bon, c'est sans doute une chose qui a été...
C'est quelle année ? C'est 96, ça, non ?
Oui, 195.
95, c'est ça, oui. Ouais.
Mais on peut faire remonter le cinéma à ce que certains ont appelé le pré-cinéma, c'est-à-dire Marais, Muybridge, des gens qui ont analysé le mouvement, ou même Plateau, encore plus anciennement.
Quand ça a commencé à bouger.
Oui, voilà. Oui, donc c'est le mouvement, mais qui n'est pas nécessairement enregistré sur pellicule.
Ouais.
Et avec Lumière, avec Edison, là c'est enregistré sur pellicule, donc on appelle ça cinéma. Puis il y a des projections qui deviennent publiques, alors que Edison, on est dans le kinétoscope, donc ce sont des projections individuelles. Enfin, chacun.
Ah oui, regarder, d'accord. Le petit machin où on se met comme ça.
Voilà, ouais, dans une boîte. Quoi.
D'avoir, ouais.
Mais les mouvements proprement l'avant-garde, c'est quand même autour de 1920 que ça commence. Alors, un peu avant 1910 avec les futuristes italiens, mais il ne reste pas de traces. Donc, c'est pour ça, pas de traces filmiques, il reste les manifestes. Mais donc, c'est pour ça que j'ai voulu quand même que ce soit fondé sur les films, mais la perception des films, et en même temps des textes. Et donc, la chronologie est plus ou moins autour de 1920, même si je fais des petits retours en arrière, des retours de projet, des retours en avant, si on peut dire.
Mais c'est un besoin que les gens vont avoir, parce que Walter Benjamin, il est gamin fin 19e, ouais. Il y a un témoignage à Berlin, il va voir, j'ai perdu le nom de l'instrument, il va voir sur une place un espèce de truc qui tourne avec des images.
Ouais, une sorte de panorama.
De panorama. Oui. Donc ça vient, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps.
Ah
quoi.
Oui, la fascination des images qui bougent, oui, ça a beaucoup... Alors c'est contemporain aussi du développement des moyens de transport et de la vitesse, la perception de la vitesse par l'automobile. Il y a des gens qui découvrent la vitesse par l'automobile. Et donc la vitesse aussi va intéresser beaucoup les cinéastes d'avant-garde, particulièrement avec l'accéléré, hein, quand ils utilisent l'accéléré ou le ralenti. Donc jouer sur des vitesses artificielles par rapport à la vitesse qu'on a l'habitude de percevoir dans la vie quotidienne.
Ça va concerner les grands mouvements d'avant-garde, le dadaïsme,
ouais.
Le futurisme.
Ouais.
Le surréalisme,
Le constructivisme,
aussi,
en Russie. Le suprématisme,
ouais.
À ne pas confondre avec le suprémacisme, parce que
faut faire attention, c'est très dangereux.
On l'entend, y compris par des gens cultivés et intelligents, on l'a entendu récemment, on parle de suprématistes,
ouais, faut...
alors que c'est horrible, quoi. Les suprémacistes sont donc les blancs.
Les racistes blancs, oui.
Et les suprématistes, c'est le mouvement inventé par Malevitch dans les années 10.
Voilà. Oui. Mais tous ces gens-là convergent à la même chose, c'est-à-dire la vitesse, le mouvement,
ouais.
et les peintres en particulier.
Ouais, bah ouais.
Les peintres en particulier.
Ouais, alors c'est-à-dire que le cinéma, d'une manière générale, est pris dans un réseau de production. Il faut trouver de l'argent, hein, ça coûte cher.
Ouais.
Et les producteurs, évidemment, veulent revenir sur leurs fonds engagés. Et donc, les cinéastes ne sont pas vraiment entièrement libres de ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils choisissent tel acteur qui va rapporter de l'argent, etc. Bon, Léger se moque beaucoup de ça. Et les artistes, eux, qui ont une activité de peintre, y compris parfois dans l'abstraction, ont été les premiers à pouvoir penser, imaginer qu'on pourrait faire aussi, pourquoi pas, un cinéma totalement abstrait, ce qui était totalement imaginable pour les cinéastes de la profession. Mais évidemment, il fallait être indépendant financièrement. Alors, ils le font, ces films, quasiment tout seuls. Quand on voit les génériques, c'est trois personnes maximum. Manet, c'est avec son collaborateur, son assistant, Jacques-André Boisfer, le photographe. Marcel Duchamp est tout seul avec son copain Manet. Bon, et quand on voit les génériques, évidemment, des films hollywoodiens de l'époque, bon, c'est minimum 100 personnes, quoi. Donc, ils sont tout seuls, ou à très peu d'engagement financier. Et souvent par des mécènes éclairés, comme on dit, qui vont aider à la réalisation de ces films. Et donc ça donne des films qui sont évidemment très à l'écart de ce qu'on pouvait voir dans la production courante, Pathé, Gaumont.
Tout à l'heure, on va voir ça de plus près, mais tout ça est éternelle contradiction, parce que c'est des gens qui sont politiquement engagés, on le dirait maintenant communistes ou d'extrême gauche, d'accord, qui ont besoin d'argent capitalistique, des mécènes.
Oui.
On n'en sort pas, on ne peut pas en sortir.
Oui, alors, vous avez raison. l'argent. Donc c'est les Noailles ou le comte de Beaumont, c'est des aristos souvent qui ont de l'argent et qui, soit pour se donner un peu de, un peu de, je sais pas quoi, de donner un beau costume, vont aider l'art.
Et deuxième paradoxe, Patrick Dehas, on va prendre les surréalistes, c'est des gens qui se réclament de la rue et du populaire, et ça va aboutir à un art extrêmement élitiste.
Oui, alors là, c'est une chose qui est assez compliquée à voir, c'est que comme ce sont des artistes et qui s'intéressent, disons, en priorité à la forme, même si c'est pas que la forme, évidemment, ça va provoquer des résistances et ce sera pas popularisé immédiatement. Mais en même temps, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un snobisme, c'est pas nécessairement un entre-soi. C'est, ils espèrent que les recherches qu'ils font vont pouvoir être vues par le grand nombre. Mais évidemment, ça marche pas si facilement que ça, puisque justement, c'est une recherche, c'est une expérimentation. On sort des codes, des programmes qui sont déjà dans la cervelle des gens. On fait bouger un peu les lignes, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça provoque des résistances. Mais leur projet, c'est quand même que ce soit vu par le grand nombre. C'est pas de se satisfaire du petit nombre. Mais ils ne le font pas pour le public. Ils le font pour la recherche. Et cette recherche, ensuite, dans un deuxième temps, doit être vue par le plus grand nombre. Ce qui n'est pas la même chose que le cinéma, par exemple, militant ou social, où là, c'est en premier, le cinéaste le pense par rapport au public, ou à l'effet que ça va produire.
Les constructivistes russes vont quand même penser à faire ça en parallèle à la Révolution. Ouais. Ils travaillent quand même pour les masses.
Oui, oui. Alors,
entre guillemets. Alors,
si on prend le cas de Vertov, moi, le film dont je parle, c'est L'homme à la caméra, qui est un film tout à fait extraordinaire, et qui est un film à la fois expérimental et social et politique. Bon, il n'est pas sûr que ça ait été vu par des millions de gens quand même. Hein. Mais effectivement, il y avait cette ambition que ce soit vu par un grand nombre.
Il y a une très belle notation, avant qu'on écoute un peu de musique et puis qu'on commence à plonger dans tout ça, dans ton livre, il y a une très belle notation. C'est que Vertov, à un moment donné, filme des corps nus à la douche.
Ouais.
Hein, et il y a un côté,
sur la plage, ouais,
un
ouais.
côté érotique, un côté esthétique, et que les autres cinéastes soviétiques, ils sont soviétiques, eux filment des corps nus, mais en rapport avec le travail.
Oui, c'est ça. Oui. Si on prend le cas d'Eisenstein ou Pudovkin, souvent, quand ce sont des corps au travail. Quoi. Alors que là, il y a comme une sorte de parenthèse de la part de Vertov qui montre qu'il y a le plaisir simplement de. Bon, sans que ce soit vraiment érotique non plus, hein, mais en tout cas, il n'y a pas cet hygiénisme du travail qui peut être lié aux productions d'Eisenstein, par exemple.
Qui est très dangereux aussi. Hein.
Ah oui,
le corps hygiéniste est très dangereux. On va écouter l'opéra de Katsou, l'ouverture, puis après, on va à Maya Daven, et puis on va circuler, on va voyager. Merci, Monique.
Sie werden jetzt eine Oper für Bettler hören. Und weil die diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen. Und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper.
Eh oui. Merci Monique, merci Kurt Weill et Bertolt Brecht, hein, l'opéra de Katsu. Et mea culpa à moi, mais bien sûr, c'est Maya de Rennes. Voilà. Il y a un film qu'on peut voir de Maya de Rennes au musée Montmartre actuellement, c'est ça?
Oui, oui.
D'accord, c'est
Atland.
Ouais.
Et donc, Maya de Rennes est une cinéaste importante dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc là, on sort de la chronologie de mon bouquin. Parce qu'elle a initié, disons, toute une avant-garde aux États-Unis qui a été beaucoup moins développée dans la première moitié du siècle, contrairement à ce qui s'est passé en Europe, et qui a essayé de défendre le cinéma comme art, hein, comme une activité artistique. Donc, elle s'est drapée un peu dans le costume de l'artiste libre pouvant inventer des formes à l'écart de la grosse industrie hollywoodienne. Donc elle a initié un peu tout le mouvement d'avant-garde qui sont très riches aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, avec des gens comme Jonas Mekas, Marco Poulos, Warhol, Kenneth Anger, etc.
On est en 1944,
ouais.
C'est un film qui dure 14 minutes, c'est ça, noir et blanc.
Ouais.
C'est du cinéma expérimental, c'est du cinéma absolu, ou déjà on est déjà dans autre chose?
Ah, on est un petit peu dans autre chose déjà. Parce que, alors, le cinéma absolu, c'est une expression qui était utilisée dans les années 20, mais plutôt en Allemagne. Hein. En France, on utilisait plutôt l'expression cinéma pur.
Ou cinéma expérimental, non?
Oui, alors pour ce qui est de Maya de Rennes, c'est l'expression avant-garde et experimental cinéma, qui est une expression qui a commencé à être utilisée aux États-Unis, alors qu'on ne parlait pas de cinéma expérimental. Enfin, l'expression n'existait pas, n'était pas développée en France ou en Europe. Hein. On parlait de cinéma d'avant-garde ou cinéma de recherche ou cinéma de. Alors qu'aux États-Unis, ça commence experimental cinéma. Ou
alors,
avant-garde
c'est
cinéma.
Une femme, c'est elle.
Ouais.
C'est elle qui, pendant le. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole.
Oui, non.
Hein, c'est elle qui, pendant 14 minutes, saute de plan en plan différent.
Ouais.
C'est-à-dire, à un moment donné, c'est une plage, je crois qu'il y a une plage.
Ouais.
Elle se retrouve sur une table.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et ce film, pourquoi je voulais commencer par là, pose tous les problèmes, moi j'ai l'impression, de ton livre. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est du cinéma narratif? Est-ce que ce cinéma est un cinéma esthétique? Est-ce que, puisqu'on est dans l'avant-garde là, 44, c'est donc, tu me corriges, hein, c'est donc 14 ans après l'âge d'or et Chien Andalou, environ.
Oui, l'âge d'or c'est 1930. Ouais.
30, donc 14 ans.
C'est ça, ouais.
Est-ce que c'est déjà pas, est-ce que c'est déjà pas très classique en fin de compte, par rapport à...
Oui, alors, bon, c'est sûr que, alors, on parlait tout à l'heure de l'écran qui a été lacéré. Il y a une histoire de l'âge d'or avec les projections qui ont été attaquées, hein, par des groupes d'extrême droite, la Ligue anti-juive et la Ligue des Patriotes, où l'écran a été lacéré, le hall du studio 28 saccagé, des toiles de Dali, Miro, etc., abîmées, Man Ray, des photos de Man Ray aussi détruites. Donc, c'est un. L'âge d'or a un fond, disons, de révolte qui est beaucoup plus explicite que Maya de Rennes, où c'est plus une sorte de quête subjective, disons, presque existentielle. Alors que l'âge d'or de Buñuel, c'est vraiment une révolte dans le cadre du mouvement surréaliste, et c'est pour ça que ça a tant enthousiasmé.
Avec tout ce que ça implique de politique, d'esthétique et tout ça.
Voilà, voilà. Alors que la dimension de révolte chez Maya de Rennes n'est pas vraiment présente. Hein. Mais il y a effectivement une sorte de filiation formelle, puisque tu parlais des enchaînements de l'intérieur à l'extérieur. Mmh. C'est ce qu'on trouve aussi dans Un Chien Andalou, par exemple. Hein.
Donc c'est plus de l'avant-garde. Ben, c'est ça que je voulais dire. C'est plus de l'avant-garde, puisque, en fin de compte, c'est ce qu'on trouve dans Un Chien Andalou.
Alors, c'est plus. Il y a des choses nouvelles, puisque cette entreprise, quand même, c'est une artiste différente de Buñuel, hein, comme tous les artistes sont différents, même si on peut trouver des chemins, des connexions, des résonances. Donc l'avant-garde est riche et large et généreuse, on peut prendre beaucoup de personnes. Mais l'avant-garde au sens où moi je l'ai utilisé dans les années 20, c'est plutôt quand même une prise en compte aussi du politique. Hein. Alors que ce politique est peu présent chez Maya de Rennes, alors on peut entendre avant-garde aussi dans le sens plus restreint, qui est simplement renouvellement formel. Hein. Et à ce moment-là, ça devient quasiment un synonyme de cinéma expérimental. Mmh. C'est d'ailleurs l'expression qui est le plus souvent utilisée aujourd'hui, où beaucoup de gens se rétractent sur les possibilités d'un, bon, d'un développement politique du cinéma expérimental. Et donc j'utilise le mot expérimental plutôt qu'avant-garde, qui a été dégradé, y compris, on parle d'avant-garde pour la mode, enfin pour n'importe quoi.
Il y a un mot qui est récurrent d'un bout à l'autre de cinéma absolu avant-garde 1920-1930, c'est le mot narratif.
Oui, alors que...
Alors, voilà, on va y arriver. Tu sais qu'il y a un poème d'Éluard qui dit « Tout fait l'amour avec tout ». Je ne sais pas si tu connais ce texte. « Tout fait l'amour avec tout ». Et puis, je ne sais plus, à écrit. Tout raconte. Tout raconte. Ouais. Pour moi, tout est narratif. Pour moi, tout est narratif. Et j'ai du mal à comprendre cette rupture entre... Bon, Maya Deren est narrative. On voit qu'il y a une histoire. On ne peut pas le nier, non ?
Donc c'est des éléments, des rudiments, mais après ça flotte quand même. Hein. C'est pas une action, on aurait du mal à.
Non, mais c'est quoi le narratif, quoi ? C'est quoi le narratif ?
C'est quand il y a. Évidemment, je vais me faire. C'est quand il y a un enchaînement causal, disons, ouais. Dans des éléments discursifs, pour employer des gros mots, hein, donc de discours. Oui, donc on peut enchaîner des choses avec une sorte de causalité temporelle. Et mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la mise au poste de commandement. De la réflexion ou des agencements formels. Et à ce moment-là, il peut y avoir des éléments narratifs, mais ils sont finalement secondarisés par rapport à la recherche visuelle, de perception, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que, dans mon bouquin, quand je parle de narratif, c'est plutôt de non-narratif, c'est pour dire la face nocturne, disons, la face cachée du narratif, mais où la dimension formelle, la dimension d'expérimentation visuelle, est prégnante et plus présente que la dimension narrative. Et donc, on s'en fout de l'histoire, quoi, même s'il y en a une.
D'accord. Mais n'empêche que tu m'as fait un aveu hors antenne en me disant d'avoir été toujours follement amoureux de Musidora. Ouais. On est deux, comme ça. C'est narratif.
Musidora, oui. Ceci dit, ce n'était pas des films expérimentaux, c'était des films qui intéressaient les surréalistes pour des raisons fantasmatiques, érotiques, les colons noirs, etc. Les muses dans les hôtels, muses adorées. Mais on ne peut pas dire que ce sont des films vraiment proprement expérimentaux.
C'est pas expérimentaux, d'accord.
Mais ils sont narratifs, c'est vrai. Bon, c'est comme les films de Feuillade qui ont intéressé, alors qu'ils sont narratifs en plein, là. Fantomas, etc., auxquels participe Musidora. Mais ce ne sont pas des films expérimentaux. Ce sont des films qui ont intéressé les surréalistes.
Mais en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas foutu en l'air de tout ce cinéma qu'on appelle absolu expérimental ? Ce n'est pas le problème du narratif, c'est-à-dire juste après. Après 1930, puisque le dernier chapitre, je crois, de ton livre, c'est « Rien ne va plus hein. ». Ne va plus. Est-ce que le narratif n'a pas gagné
Il était déjà en partie gagnant, peut-être au début. Mais ce qui se passe dans la période que j'étudie, c'est qu'on est encore dans le cinéma qu'on appelle aujourd'hui cinéma muet. Hein. Donc le cinéma sonore apparaît autour de 27-28. Alors parfois il y a les deux ensemble parce que les équipements ne sont pas encore développés au même niveau dans tous les pays, dans toutes les salles. Le fait que le cinéma soit muet ou silencieux plutôt, hein, puisque à l'époque on parlait pas à l'époque du cinéma muet, on disait pas c'est muet, on parlait de cinéma silencieux ou même pas, on disait le cinéma et puis c'est tout. Il était complet par lui-même, comme dit Benjamin Fondane. Il n'est qu'image. D'accord. Et en ce sens, même les films narratifs s'intéressaient fortement à la mise en image, puisqu'il n'y avait que ça à leur disposition. Ils n'avaient pas le discours des acteurs qui leur permettait de développer les différents éléments narratifs. Donc il fallait qu'ils parlent, d'une certaine manière, par l'image. Et donc qu'ils accordent un intérêt extrême à l'image, aux surimpressions, au cadrage, aux lumières, etc. Même les films, même les cinéastes narratifs. Alors qu'après, une fois qu'il y a le cinéma parlant, il y a plein de cinéastes qui disent « Bon, ça y est, j'ai un scénario. Ouais. Du moment que j'ai un bon scénario, je ferai un bon film. » Alors, c'était pas ça à l'époque.
Il y a un intermédiaire, tu en parles, c'est le cartel.
Oui.
Le mari arrive, la femme se sauve.
Le carton ou l'intertitre, oui, d'accord.
Voilà.
Alors, dans le cinéma muet ou silencieux... narratif, ces cartons permettent de dire ce que les acteurs sont censés se dire juste avant ou juste après le carton. Je t'aime, moi non plus, etc. Mais dans le cinéma expérimental, ou d'avant-garde, il y a aussi parfois l'usage de carton, mais c'est jamais dans un but narratif. C'est plutôt ironique, ou plutôt pour jouer sur des typographies, ou plutôt pour déstabiliser. Par exemple, il y a dans l'Étoile de mer, on voit Kiki qui s'est déshabillé, qui est entièrement nu, et il y a un carton, vous ne rêvez pas.
Génial.
Ah, ça, et c'est vous beau, ne rêvez ça. Pas, évidemment, ça s'adresse directement au spectateur, à la spectatrice.
Ça, c'est beau, ça.
Vous ne rêvez pas, et donc là, on voit bien que la fonction du carton n'est plus du tout la même que celle d'un western ou je ne sais pas quoi.
D'accord. Si jamais je te dis que dans ces avant-gardes, les futuristes et Dada sont intéressés au cinéma pour la machine, et que les surréalistes sont intéressés à ce cinéma pour l'inconscient, ça te va ou pas?
Oui, on peut dire ça comme ça. Alors les Dalí se sont intéressés, mais pas seulement. Alors c'est plutôt la mécanique. Moi, je parle plutôt de mécanique que de machine, parce que machine, ça suppose que il y a une dimension instrumentale, fonctionnelle, etc. Et la mécanique, c'est plus c'est Charlot qui marche de façon à sa façon à lui, ou c'est les rouages qu'on trouve dans les engrenages qu'on trouve dans les tableaux de Picabia, par exemple, et qui deviennent des métaphores quasiment sexuelles. Donc c'est plus la mécanique, à la limite inutile, machine célibataire, comme dirait Duchamp, que la machine. Et effectivement, l'inconscience, c'est de la mettre au compte et au crédit des surréalistes, alors que les Dada parlaient plutôt de hasard. Ce qui les intéressait, c'est le hasard, la mise en rapport, par le collage, par exemple, du côté des arts plastiques, d'éléments qui appartiennent à des contextes différents. Les surréalistes, c'est plus, effectivement, l'inconscient qui est mis en avant. Oui.
N'empêche, Patrick, tu as l'inconscient, tu as eu l'écriture automatique.
Ouais.
Pour le mettre à jour, l'écriture automatique, il faut déjà posséder le langage,
qui est aussi
une mécanique. Tout le monde n'est pas égal au niveau de la mécanique et du langage automatique. Mais là, lorsque les gens vont vouloir mettre l'inconscient sur l'écran, il y a une technique à avoir. Comment ils l'ont, cette technique, puisque c'est un art qui arrive comme ça?
Oui, non, effectivement. Alors, c'est une difficulté que René Clair avait soulevée en disant, mais oui, mais on peut pas, on peut faire de l'écriture automatique en rêvant un peu, en allant aussi vite que le fonctionnement de la pensée, comme l'imaginait Breton et Soupeau quand ils écrivaient les champs magnétiques. Mais au cinéma, René Clair dit, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a une machine, il faut préparer les choses, on peut pas faire comme des choses comme ça. Alors, effectivement, c'est un obstacle réel, mais qui a été, donc, ce que les surréalistes vont plutôt faire, c'est scénariser des rêves. Donc c'est le rêve, mais qui évidemment, c'est pas au moment même de l'action qu'il y a une automaticité de l'écriture cinématographique. C'est on raconte un rêve. À ce moment-là, les choses deviennent possibles. Mais l'automatisme, au sens matériel, enfin direct, a quand même été parfois exploré, par Man Ray notamment, dans Le Retour à la Raison, quand il va faire un film sans caméra. Ce qui est déjà dans les termes.
Oui, c'est bien, c'est le film de Lichtenberg.
C'est assez intéressant. Donc, ce qu'il va faire, il va déposer sa pellicule sur une table dans le noir, dans son atelier. Il va déposer différents grains de sel, des petites perles, alors de petites dimensions, un ressort, tout ça sur le ruban de pellicule cinématographique. Il allume quelques secondes la lumière blanche. Et à ce moment-là, les objets vont s'imprimer directement, comme des sortes d'ombres blanches, sur la pellicule, puisque les sels argentiques ont été noircis, sauf la région couverte par ces petits objets, grains de sel, etc. Et donc, il va faire un film, et il dit lui-même, je ne savais pas ce que ça donnera à l'écran, puisque là, il le dispose sur la pellicule qui est divisée en photogrammes, on est encore, on n'est pas dans le numérique, on est dans la pellicule argentique, et donc, quand c'est projeté, évidemment, c'est un photogramme, puis un autre obturateur, photogramme, obturateur, photogramme, etc. Et donc, il ne savait pas ce que ça donnerait à la projection. Et donc, finalement, il a été enthousiaste de ce film, Le Retour à la Raison, tout en ne sachant pas ce que ça donnerait, ce qui est quand même intéressant.
Oui, bien sûr. Et ça donne quoi, justement?
Alors, c'est un film assez court, de 3 minutes.
Ouais.
Et qui est tout à fait... Alors, il ne faut pas cligner des yeux, parce que ça va très, très vite. Et puis, surtout, il y a une chose extraordinaire, alors qu'on ne voit pas, mais que j'ai eu la chance de découvrir, c'était vraiment un des grands plaisirs que j'ai eu en faisant les recherches, c'est que... il y a des images de nus qui sont totalement invisibles à la projection. parce que les images sont sur des plaques de verre photographiques, des images de nu photographiques, et qui vont être plus larges que le format d'un photogramme, et donc c'est impossible à voir à l'écran. Mais un jour, j'étais à Beaubourg en train de regarder le film sur une table de montage, et puis je vois un truc, alors j'avais vu ce film déjà une dizaine de fois, à l'écart, donc pas dans la projection, pas sur écran, et je vois qu'il y a ces images bizarres, et je vois que ce sont des nus. Et j'ai vu le film en projection, mais vraiment des dizaines de fois. Et c'est impossible à voir. Et donc, il y a ces images de nu qui sont dans l'image et qui passent de façon invisible à l'écran.
Voilà. Oui, ça, c'est vraiment du cinéma expérimental. Voilà, hein. Voilà. Avant qu'on va réécouter un peu de musique, donc on a le terme absolu.
Oui.
On a le terme expérimental,
oui.
On a le terme abstrait,
oui.
Non ?
Oui, oui, il en manque, on parlait aussi de cinéma abstrait, cinéma pur.
Oui, cinéma pur.
Cinéma intégral, c'est aussi... ils ont eu beaucoup de mal à donner une définition, il n'y a pas de définition possible, mais pour montrer les différentes possibilités non narratives du cinéma. Et donc on parlait par exemple de poèmes d'image. Man Ray parle de ciné-poème. Donc voilà, ce sont souvent des termes qui s'associent à autre chose pour pouvoir se désigner cette pratique qui est quand même très aventureuse, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Mais je vais revenir, les surréalistes très fascinés par ça sont des urbains qui marchent, qui ont fait de la ville vraiment leur décor,
ouais.
Et c'est un peu antinomiste d'un film de 3 minutes.
Oui, encore que Man Ray, dans ce même film, il a filmé un manège, et donc il y a des éléments de ville, et alors il partait avec sa petite caméra portable dans les rues de Paris, et il aimait beaucoup ça. Donc c'est à partir de là que Tristan Tzara, donc le poète dada, est venu le voir pour en disant qu'il organisait une soirée, la soirée au Théâtre Michel, la soirée qu'il a intitulée « Le cœur à barbe », et qu'il voulait projeter des films, et qu'il voudrait bien montrer un film de Man Ray. Mais Man Ray dit, mais non, moi, j'ai pas fait de film, j'ai juste pris quelques petites séquences sur ma caméra. Et alors Man Ray lui souffle, mais oui, mais est-ce que tu pourrais pas faire ce que tu as fait avec les rayogrammes, donc ces photographies sans appareil, parce qu'avant de faire l'expérience que je lui ai dite, il a fait ça en photographie, donc des photographies sans appareil photo. Et alors Man Ray fait ça, selon ce qu'il raconte, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais dans la nuit, en tout cas en très peu de temps, il réalise ce film sans caméra, et le film sera projeté au cœur à barbe, provoquant aussi une dispute générale entre les dadas et les surréalistes, et les futurs surréalistes.
Ouais. Futurs surréalistes. Monique, un peu de Kurt Weill, et puis après on va replonger dans le Paris des cinémas.
Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mekis, genannt Mekki Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mekki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mekki Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann, und sein Geld hatte Mekki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kiegit Mekki Messer, der von allem nicht das große Feuer in so sieben Kinder und ein Greis in der Menge. Mickey Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mickey, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mickey, welches war dein Paradies?
Ben merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Liberté dans Onde de Choc. Ben, la voix de Lotelenia, c'était la femme de Kurt Weill et c'est bien sûr l'opéra de 4 sous. Il y a Cinémathèque actuellement, c'est à Bercy. Il y a un festival, non pas des films surréalistes, mais des films des surréalistes.
Oui.
Tu as rien vu, non?
Alors non, j'ai pas encore.
D'accord. Bah alors le c'est très drôle parce que moi je suis pas allé, je sais pas si j'irai, j'en sais rien. C'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est les films, c'est Frick, c'est là j'ai l'espèce de programme Peter et Benson, tous ces films qui sont en fin de compte très classiques et qui sont bâtis sur le rêve, mais très classiques, très hollywoodien. Enfin, c'est très hollywoodien.
Oui, oui. Non, mais les surréalistes n'ont pas soutenu le cinéma expérimental ou d'avant-garde, et même parfois ils s'y sont opposés, hein, en disant... même des gens comme Buñuel, donc, qui a été approuvé par les surréalistes, L'Âge d'or et Un chien andalou, Buñuel était très méprisant vis-à-vis des recherches formelles et abstraites. Il disait que c'est des trucs... Bon, enfin, Desnos aussi, parfois. Mais bon, Desnos, par exemple, tout en participant au film de Man Ray, il n'aimait pas le fait que ce soit strictement formel. Donc le cinéma abstrait, par exemple, qui est totalement abstrait, là, il y a une résistance de la part des surréalistes parce que ce qui les intéresse, c'est l'onirisme, la révolte, la narration, mais quand la forme est vraiment totalement libérée d'un enracinement ou d'une opposition à quelque chose, ils ont beaucoup plus de mal. Alors que Malevich, les constructivistes, les dadas étaient plus ouverts, puisque par exemple Hans Richter a fait un des tout premier film entièrement abstrait, donc constitué uniquement de carrés et de rectangles en rapport avec le format de l'écran, et on est en 1920, donc très peu de temps après les premiers développements de la peinture abstraite. On dit que c'est autour de 1910 essentiellement que ça se passe. Donc 10 ans après, il y a un cinéma totalement abstrait qui était inimaginable.
C'est toujours des films très courts.
Oui, très courts.
Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Petite parenthèse aussi, il y a quand même un ami à moi qui a fait du cinéma vraiment très proche du surréalisme, qui est mort il y a quelques années. C'est Jean Rollin, je ne sais pas si ce nom dit quelque chose. Jean Rollin.
Écrivain plutôt, je le connais.
Oui, non, c'est le cinéaste.
Oui, mais là, ah oui, d'accord.
C'est le cinéaste qui a fait vraiment du. D'accord. Et je m'étonne de ne pas le voir programmé à la Cinémathèque, mais ça n'est pas grave. Non, je m'intéresse énormément au temps des films, au temps et du phénomène du populaire. Dans ce livre qui recouvre beaucoup de choses, alors on tient un cinéma absolu, là, tu passes par l'économie, mais tu passes aussi par cette chose très importante qui va apparaître, ça va être les salles de cinéma.
Oui. Alors, à Paris, il y a essentiellement trois salles qui diffusent qui sont très ouvertes sur le cinéma d'avant-garde. C'est le Vieux Colombier, donc qui est devenu un théâtre par la suite, le théâtre du Vieux Colombier. Le Studio 28, ouvert en 1928, parce que c'est de là que vient son nom. Et puis le Studio d'Ursuline. Et là, il a fallu effectivement qu'il y ait des directeurs de salles, comme Jean Tedesco, ouvert et intéressé par le cinéma d'avant-garde pour que ça puisse être montré. Et puis, ça s'appuie aussi sur un réseau de ciné-clubs assez actif. Du coup, ces films de Man Ray ou venus de l'étranger comme Rothman ou Richter, ça passait, ou en Hollande, il y avait un ciné-club très actif en Hollande qui s'appelait Film Liga, qui fait que ces films expérimentaux, apparemment destinés à un public minoritaire, finalement, ça circule quand même très bien internationalement.
C'est René Clair qui dit à un moment donné, c'est un état dans l'état, les salles
Je me relis. Je crois que c'est.
Il y en a un qui le dit.
Oui, d'accord. C'est un étalon. Tu as raison. Non, c'est pas lui.
Bon, bref, pour que je te raconte ça, parce que je ne sais pas si tu as lu ce livre, et puis comme c'est en exergue, on va en parler de Walter Benjamin. Mm-hmm. Benjamin, dans son Baudelaire. Dans Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, il raconte que les passages de Paris deviennent les nouveaux intérieurs du promeneur. C'est-à-dire, il sort, il rentre dans les passages vitrés, il est encore chez lui. Et avec dans ton livre, à lire ton livre, je me disais que ces gens-là, qui avaient découvert les salles de cinéma et les ciné-clubs, avaient retrouvé un chez-eux, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire de promiscuité, de chaleur, de distraction, etc.
Oui, oui, non, il y a une chose qui est sans doute perdue aujourd'hui, c'est la salle de cinéma qui est aussi un lieu collectif où on est ensemble pour voir une même chose au même moment. Hein. Alors aujourd'hui, on est chacun chez soi avec ses écrans, et on peut voir les choses en différé, etc. Et là, il y a la notion de direct, d'immédiateté, de voir les choses ensemble à un même moment, qui me semble important, parce que c'est le ici et maintenant, hein, de la projection qui est important. Et là, la salle de cinéma est essentielle pour ça.
D'ailleurs, tu le dis en introduction, là, on peut même, quand on les remet dans un autre procédé technique, on ne peut pas comprendre ce que ça a été.
Non, parce que le passage au numérique fait que, c'est autre chose. La pellicule, c'était des photogrammes séparés. Et les cinéastes expérimentaux ou d'avant-garde ont beaucoup joué sur la question du montage et parfois au photogramme près. Donc c'est vraiment image par image. Donc ils travaillent sur table de montage. Avec le numérique, c'est un autre rapport. Quoi. Donc c'est...
J'ai fait parcourir ton livre, Un esprit pur et un cœur pur, et une jeune fille bien sous tout rapport, qui m'a fait une remarque, je n'ai pas pu lui répondre, et c'est la chose à laquelle je n'avais pas pensé. Elle a regardé, ça a été feuilleté, etc. Mais elle me dit, mais pourquoi on ne parle pas du burlesque ? Est-ce que ça vient plus tard, ou alors c'est trop populaire pour qu'on puisse en parler dans un tel livre ?
Non, pour en parler, mais il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas. C'est centré sur l'expérimentation visuelle essentiellement. J'en parle comme, disons, effectivement, marginalement. Hein, donc, Charlot, Harold Lloyd, Buster Keaton, etc.
C'est très court.
C'est très court, d'accord. Non, d'accord. Hein. Mais ce sont plus des expérimentations, alors narratives, disons. Justement, c'est la peau de banane, le type tombe.
Très bien, bien.
Voilà. Donc c'est le slapstick, des choses comme ça. Mais ça joue moins sur des expérimentations visuelles. Bon. Mais ça a beaucoup intéressé les surréalistes, là, pour le coup.
C'est pour ça que j'ai dit ça.
Ou les dadas. Hein. Oui. Donc, non, mais il n'y a pas d'exclusif. C'est-à-dire, on peut très bien s'intéresser au cinéma expérimental d'aujourd'hui et puis être passionné par Hitchcock. Donc,
c'est quelle année, le burlesque ?
C'est contemporain.
C'est complètement contemporain.
Keaton, Charlie Chaplin, enfin bon. Non, c'est contemporain, donc on peut voir les deux, hein. c'est pas interdit.
Non, mais je te rapporte ce qu'on m'a dit.
Oui,
hein.
D'accord.
C'était quelqu'un de scandalisé, pour que rien n'est plus beau que Harold Lloyd ou des choses comme ça, tu vois. Voilà. Mais tout à l'heure, je disais que tout ça comportait un rapport à la morphologie qui va changer, puisque la perspective, tu le dis toi-même dans le livre, n'est plus la même. On a depuis Uccello, c'est 1500 et quelques. Ouais, hein, on a une nouvelle perspective qui va se créer avec le cinéma. Mmh. C'est plus la même chose. Ça touche à pas mal de, y compris à la morale, puisqu'il y a déjà la phénomène de la censure qui va arriver. Et nos surréalistes, nos futuristes, nos dadaïstes, hein, moi, je ne peux pas me dire qu'ils n'ont pas eu un œil de voyeur sur quelque chose, en particulier sur le corps en mouvement et le corps érotique.
Oui, alors c'est sans doute vrai de tout le cinéma, hein, mais évidemment encore un peu plus quand il s'agit de cinéma érotique et donc quand on commence à montrer des nus, etc. Alors c'est vrai de tout le cinéma, tous ceux qui sont passionnés par les images, y compris les peintures, etc., il y a toujours une dimension un peu peut-être souterraine, plus ou moins souterraine, voyeuriste, hein, puisqu'il s'agit de... C'est l'œil qui est placé au poste de commandement. Alors maintenant, quand il s'agit de nu et d'une dimension plus proprement érotique. Bon, c'est sûr que c'est présent dans tout le surréalisme, c'est présent chez Dada aussi, les constructivismes beaucoup moins.
Ah, ça oui, c'est beaucoup, beaucoup plus prévu.
Bon, les futuristes aussi, c'était pas très, très manifeste. Mais bon, du côté des Dada et des surréalistes, c'est sûr qu'il y avait cet intérêt pour l'érotisme. Bon, c'était un des points qui suscitait, qui les faisait vivre, de certaine manière.
Ouais. Au musée de l'érotisme, je ne sais pas si tu le situes à Paris, il y a Place Clichy, voilà. À un moment donné, il passait justement des films des années 20, ouais. Comme ça, des films porno des années 20. Alors, c'était très drôle, parce qu'on voyait des dames avec des morphologies qui ne sont pas celles actuelles.
Pas standard, oui.
Hein,
qui ne sont pas standards,
oui. Qui ne sont pas standards, mais qui ne sont pas nos standards. Et on voyait des messieurs, avec leur moustache de l'époque, etc., qui étaient en train de besogner ces dames. Et c'était très drôle, parce que tout ça à vitesse décuplée, le plus souvent. Et il n'y avait pas de son, et les messieurs avaient conservé leurs fixes chaussettes. C'est-à-dire le pantalon était baissé,
ouais.
Et ils avaient conservé leurs fiches chaussettes. Et moi, en voyant ça, c'était fascinant comme ça. Je me demandais si c'était fait exprès pour faire rire quelqu'un, ou alors on était la chose la plus normale qui soit. C'est-à-dire copuler en fiches chaussettes.
Alors là, tu me poses une question.
Non, non, c'est pas une question. Je te dis, le document existait. Le document existait à l'état brut. Hein, c'est-à-dire, et là, c'était vraiment effectivement 1920 ou quelque chose comme ça. Non, mais simplement pour
alors,
dire.
Tu penses qu'aujourd'hui, on est plus délicat, on retire ses chaussettes avant de faire la chose.
Maintenant, je pense qu'on enlève ses fumantes. on enlève ses pompes et ses fumantes. Il y a un très beau passage quand tu as été chercher. J'ai déjà dit combien je déplorais que l'érotisme soit prohibé, qu'on imagine donc les effets remarquables que l'on pourrait tirer de la nudité et quelles œuvres admirables pourraient réaliser au cinéma le Marquis de Sade.
C'est Desnos qui dit ça.
C'est Desnos, ça c'est magnifique. Oui. Hein. Et il y a un moment, alors là c'est toujours Desnos. C'est toujours Desnos. Après j'en dirai une autre. Les impuissants, les mêmes qui proscrivent Charlot, brûlent les livres de Sade et recèlent dans leur âme des luxures de boue. Ont chargé le cinéma des multiples chaînes d'une censure imbécile. Prends garde, censeur, regarde cette main de femme palpiter au premier plan, regarde cet œil ténébreux, regarde cette bouche sensuelle. Ton fils en rêvera cette nuit et grâce à eux, il échappera à cette vie esclave à laquelle tu le destinais. Regarde cet acteur tendre, mélancolique et audacieux, plus sûrement qu'en des bras de chair, il enlèvera ta fille cette nuit dans son étreinte de celluloïde et l'âme de ta fille sera sauvée. C'est magnifique, non?
Oui, c'est bon. C'est...
Et ce cochon des lueurs écrit « Le cinéma obscène, quelle splendeur, c'est exaltant, une découverte, la vie incroyable, des sexes immenses et magnifiques sur l'écran, le sperme qui jaillit et la vie de la chair amoureuse, toutes les contorsions ».
Oui, le sperme qui jaillit, je ne sais pas quel film il a pu voir.
Oui, moi,
la citation date quand même de 1930, je crois. Hein, donc, on est encore dans les temps. C'est pas. Alors, des films porno de l'époque où on voyait du sperme, j'ai un peu des doutes, mais. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les surréalistes, en premier, se sont battus très, très fortement contre toute espèce de censure. Et donc, Desnos, c'était...
Mais qui existe déjà de la part des directeurs de salle.
La part des directeurs de salle et puis du pouvoir, hein, puisqu'il y avait une commission de censure. Et Man Ray en parle un petit peu dans son autoportrait pour l'un de ses films, L'Étoile de mer, où il fallait supprimer des scènes. Notamment celle où Kiki enlève son soutif et le balance au-dessus de l'épaule, et puis une autre qui était un carton cette fois, un intertitre, il faut battre les morts quand ils sont froids.
C'est génial.
Et donc il fallait...
oui, Monique, c'est très beau ça.
Et donc les deux choses, mais finalement Man Ray les a quand même maintenues, donc aujourd'hui on a les copies avec les deux morceaux qui auraient dû être censurés par la commission de censure. Mais Man Ray était toujours très inquiet de ça parce qu'il était étranger à Paris, et donc il risquait toujours d'être expulsé en partant aux États-Unis.
Alors, c'est ce surgissement de l'image va impliquer des interrogations sur la parole. Artaud est absolument contre l'introduction de la parole, non?
Oui.
Complètement contre.
Oui, ils sont nombreux d'ailleurs à s'opposer. Alors aujourd'hui, ça paraît très bizarre et presque... conservateur ou je sais pas, ou presque réactionnaire, de dire on est contre le cinéma parlant, on est contre le cinéma sonore, parce que bon. Alors en fait, quand on examine un peu les textes et les analyses, on voit que la plupart de ces gens étaient, ces artistes étaient au contraire très férus de nouveautés techniques, mais ce qu'ils refusaient dans le cinéma parlant, c'était le fait justement de nouveau tout subordonner à la narration, et que le cinéma parlant allait faire qu'on revenait au théâtre. Alors le théâtre, c'était la bête noire de tous ces cinéastes, où justement c'est que du discours. Et donc à partir du moment où ils s'intéressent à la perception, à la pensée qui se passe dans les images, et rien que dans les images, le cinéma parlant sonnait le glas un peu de toutes ces recherches où on remettait tout sous la coupe du discours narratif. C'est pour ça qu'il s'oppose aux parlants, non pas en tant que c'est parlant, mais en tant que ça remet le cinéma sous la coupe de la narration. Et par exemple, René Clair a imaginé certaines solutions en disant on va faire une disjonction entre la parole et l'image, et donc quand on voit quelque chose, on n'entend pas ce qu'on voit. Et donc il y a une séparation, et non pas une coagulation du son et de l'image. Molinaghi a inventé aussi un système où il a gravé du son directement sur la pellicule, sans passer par l'enregistrement. Alors ça aussi, c'est une nouveauté quand même qui est tout à fait étrange, puisque sur la piste sonore de la pellicule, en gravant dessus, on pouvait obtenir des sons concrets, qui ne sont pas des sons enregistrés, qui ne sont pas des sons réels, qui sont des sons purement construits, quoi. Walter Gutmann a aussi réalisé des bandes sonores pour son film, alors un film qui s'appelle Wochenende, qui est un film sans image, qui est uniquement en fait constitué d'une bande sonore, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les magnétophones, mais avec la piste sonore du cinéma, on pouvait faire un montage son. En coupant, en recollant, etc. Donc avec la piste sonore de la pellicule, on pouvait faire un montage son, ce qu'on pourra faire après seulement avec les magnétophones. Donc il a fait sur film une bande son tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Weekend ou Wochenende en allemand. Et ce sont que des sons d'outils, de bouts de conversation, etc., qui sont montés ensemble d'une façon très, très...
Tu as un refus unanime de tous ces gens-là, de ce qu'on pourrait appeler le théâtre filmé.
Oui. Ah oui, oui.
Et qui va donner un théâtre, un film, à toute une cinématographie extrêmement bourgeoise, c'est-à-dire avec des amants qui sortent, des dames en voiture, etc. C'est du théâtre filmé, voilà, des espèces de films d'amour, comme du roman photo.
Oui, c'est ça, oui. Encore que le roman photo, ça peut devenir... C'est très bien. Quand c'est détourné, ça peut être très amusant, oui. Enfin, les situs ont fait ça, mais c'est... Oui, donc c'est le théâtre filmé, c'était vraiment le point le plus académique possible, et le plus rejeté donc, de ces cinéastes d'avant-garde.
Donc les purs, ça aurait pu être le cinéma pur aussi, ne veulent que de l'image, ils veulent pas de paroles et même pas de musique, parce qu'on pose aussi le problème de la musique.
Oui, alors sauf, je te dis, si elle devient expérimentale elle-même, mais pas si elle concourt à développer une narration. Et donc Léger, par exemple, a fait avec son film Manu Mécanique, qui est un film extraordinaire, donc, par son montage extrêmement vif, brutal, a fait appel à un musicien d'avant-garde qui s'appelle George Antheil, un compositeur américain qui était un peu dans le sillage de Stravinsky, qui a eu son heure de gloire assez brève, mais bon, et qui a fait aussi une musique donc du même nom, Ballet Mécanique, qui est extrêmement puissante, forte et très dynamisante. Donc il y a eu des recherches aussi de musique. Alors en général, les cinéastes sont d'ailleurs souvent contre le parlant et pour la musique, puisque justement
contre le parlant et pour la musique. Okay, ouais, d'accord.
Contre le parlant ou pour le son, mais c'est-à-dire que le parlant, c'est justement ce qui rapatrie le cinéma sous la coupe du théâtre ou de la littérature.
Le chien andalou, il y a de la musique.
Le chien andalou, oui, il y a un peu de Wagner.
Oui, c'est ça.
Donc la musique en tant que telle n'est pas n'est pas quelque chose qui s'impose, hein, qui va imposer une narration. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les cinéastes d'avant-garde, ou les cinéastes abstraits, sont souvent appuyés sur une sorte de métaphore musicale, en parlant de musique visuelle. Ils parlaient de musique visuelle pour leur propre film. Vous parlez tout à l'heure de poèmes d'image, mais il y a aussi l'expression musique visuelle. C'est-à-dire, c'est une musique pour les yeux. Hein. C'est Germaine Dulac aussi qui utilisait cette expression. Une musique pour les yeux. Alors, de même que pour la peinture abstraite au début, dans les années 10, c'était une chose qui pouvait apparaître comme tout à fait bizarre, scandaleuse, ou je sais pas, ou sans intérêt. Ces premiers peintres abstraits, Kandinsky par exemple, se sont appuyés sur le fait que les musiciens, depuis des siècles, Bach par exemple, ils font de la musique et ça ne raconte rien, enfin pas nécessairement, sauf dans le cas particulier de l'opéra qu'on a entendu tout à l'heure par exemple, où ça, là il y a une narration, mais si on prend, une partita pour violon de Bach, ça ne raconte rien, même s'il y a un début, une fin, il n'y a pas de proprement parler de narration. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi une musique pour les yeux en peinture ou une musique pour les yeux au cinéma?
Théoriquement, dans un film expérimental ou absolu, il n'y a ni début ni fin.
Pourquoi ?
Si ce n'est pas narratif.
Il peut y avoir une histoire formelle, une histoire de forme. Ouais. Il peut même y avoir des narrations avec des abstractions. Par exemple, ça c'est pas au cinéma, mais en peinture, le peintre Lissitzky, qui était lié au constructivisme en Russie, a fait un petit livre pour enfants qui s'appelle L'histoire de deux carrés. Et donc, ce n'est constitué que de structures géométriques, mais ça s'appelle l'histoire de deux carrés. Donc, une narration, mais à partir d'abstractions. Donc, l'abstraction, parfois, peut être elle-même narrative. Hein, c'est pas nécessairement opposé.
Avant d'écouter, de poursuivre avec l'opéra de Katsu, ça m'est revenu raconter une petite anecdote qui s'est passée ici, là.
Ouais.
J'ai un ami qui est malade actuellement, je le salue si jamais il nous écoute, Jean-Claude Éloi. Jean-Claude Éloi est musicien. Et musicien. Donc après la guerre, il va se retrouver à Darmstadt. Darmstadt, c'est une ville d'Allemagne où il y a tout le nec plus ultra de la musique d'avant-garde qui se réunit. Il y a même Boulez qui est encore là. Il y a John Cage, je crois que tu le cites,
Stockhausen,
et c'est ça. Et ils ont l'habitude de faire venir un ancien, mais un ancien qui a été d'avant-garde, pas un pépère, quelque chose de bien. Hein. Mmh. Et là, ils vont inviter Darius Milhaud. Darius Milhaud, qui s'est inspiré du jazz, etc., qui est quand même quelque chose de bien, et qui a quelque chose de vraiment, qui était d'avant-garde et très moderne. Et puis, à un moment donné, et ça, je trouve ça très hilarant et très cruel, Darius Milhaud est près de Stockhausen, et il sort une partition de son sac, il la montre à Stockhausen, et Stockhausen la regarde, et lui, cette phrase extraordinaire, « Tiens, on écrit encore de la musique comme ça ».
Ah oui.
Terrible.
Oui, bon, Donc, sous-entendu, pour lui, c'était vieillot.
C'est-à-dire. Alors que l'autre, si on regarde bien, il y a 30 ans de différence, hein, puisque Darius Milhaud, c'est 25, là, on devait être en 55, il y a 30 ans. Hein. C'est-à-dire que ses avant-gardes passent très rapidement. C'est ça le.
Oui, alors ça, c'est une question difficile qui est liée au temps et à la connaissance aussi. C'est-à-dire que. On a toujours, quand on visite un musée, alors il y en a qui regardent les tableaux et qui ne voient que le tableau, ça me plaît pas, bon ça m'intéresse pour telle ou telle chose, et qui ne regardent pas du tout les dates. Il y en a qui regardent les dates, ils disent « Ah oui, mais ça c'est fait en 1921, ça c'est fait en 1650, ça c'est fait... » Et donc on ne peut pas juger, si on commence à regarder un peu l'histoire d'un point de vue historique, on ne peut pas juger de la même manière un tableau s'il est fait en 1650 ou s'il a été fait en 2022. Donc nécessairement, il y a des hiérarchies qui sont faites, et un rapport à l'histoire qui devient prégnant. Et ça, c'est peut-être... un défaut, enfin une perversion de l'historien de voir aussi à travers les dates, mais on apprécie différemment quand on sait que c'est une chose faite en 1425 et pas en 2022.
Hein, nonobstant, pourtant, toutefois, il y a un exergue à ton livre, c'est Walter Benjamin, qui dit la phrase là, « Toute image du passé qui n'est pas reconnue par le présent comme étant une de ses propres préoccupations est menacée de disparaître à jamais. »
Oui, c'est une très belle phrase, je trouve.
C'est magnifique. Et puis, je crois que c'est la réponse. Je crois que c'est la réponse.
Je pense qu'effectivement, on n'est pas... il y a les tableaux et des films et des œuvres d'art qui débordent le temps dans lequel elles ont été faites. Et donc, c'est pour ça que ça nous intéresse encore aujourd'hui, même si un tableau, même s'il n'y a pas d'avion dedans ou une fusée ou je ne sais quoi en 1425. Donc, il y a la dimension esthétique qui déborde la dimension strictement iconographique et qui fait que ça peut intéresser au-delà du temps et de la période de réalisation.
Mais regarde, quand tu regardes Dziga Vertov, ouais. Dernièrement j'ai vu des images, un champ de blé. Est-ce qu'il l'a voulu esthétique ou pas? Parce que moi, maintenant, avec le décalage du temps, je le trouve esthétique.
Dziga Vertov a quand même l'une des choses qui le préoccupait le plus, c'est le montage. Alors il faut voir qu'est-ce qu'il y avait avant le champ de blé okay. Et juste après, pour voir si la chose n'est pas entre les deux images, justement. Ouais. C'est peut-être ça qui l'intéressait. Alors là, je ne sais pas, il faudrait que je voie.
Mais tu sais très bien que maintenant, quand tu vois un film en noir et blanc, tu vas y trouver un côté esthétique.
Oui, c'est ça, il y a une esthétisation qui peut se faire par le temps, par le. Le côté mélancolique, nostalgique qui peut apparaître. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est plutôt la chose vivante, forte et qui bouscule encore aujourd'hui, même si ça a été fait il y a un siècle. C'est plutôt ça qui m'intéresse.
On va récapituler tout ça si Monique veut bien me prêter un peu d'attention. Monique, oui, je sais ce que c'est pas beau ce que vous m'avez fait en cabine, Monique. Un peu de musique et puis on va voir tout ça.
Jonathan Jeremiah Pitchem hat einen Laden eröffnet, in dem die Elendesten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Der Morgenchoral des Peachem.
Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft. Verschacher dein Eheweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist er Luft. Er zeigt dir's beim jüngsten Gericht.
Eh bien, il me restait 15 secondes, je suis essoufflé, j'ai couru, reçu Radio Libertaire 01 43 71 89 40. Tu as commencé ce livre en 86?
Oui, le premier linéament, c'était... Oui,
voilà. On est en 2023, ouais. Toutes les techniques... film, toutes les images, tout a été bouleversé en 40 ans, là.
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais enfin, bon, c'est une question difficile de savoir si on... Alors, c'est très bien qu'il y ait de nouvelles techniques. Le problème, c'est que ces nouvelles techniques, il ne faut pas qu'elles écrasent ou qu'elles fassent oublier les anciennes techniques. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la photographie que ça élimine la peinture. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le cinéma que ça élimine la photographie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le cinéma en couleur que ça doit éliminer le cinéma en noir et blanc. Que le cinéma en couleur et parlant qui devrait éliminer le cinéma muet, etc. Donc, c'est ça, souvent, le problème avec les nouvelles technologies. C'est que, du coup, elles écrasent et elles éliminent. Au lieu que ce soit uniquement un apport, qu'elles deviennent aussi... qu'elles finissent par censurer économiquement. Par exemple, pour ce qui est du cinéma, on sait bien que la pratique du Super 8, qui était très développée dans les années 70, parce que c'était des petites caméras que tout le monde pouvait avoir facilement, bon ben, il n'y a plus de lieu pour les développer. Donc, c'est des choses qui ont disparu, alors que c'était une pratique tout à fait extraordinaire, le Super 8, dans les années 70, y compris pour les cinéastes expérimentaux.
Et tout ce qui se passe, il y a une nouvelle... tu es en contact avec une nouvelle avant-garde, actuellement, ou pas ou...
Ah ben oui, il y a toujours des cinéastes expérimentaux qui sont actifs, oui. Ce
sont des gens narratifs?
Non.
Et voilà, oui.
Non. Mais qui jouent aussi sur des problèmes de perception, de montage, de jeux visuels. Je ne sais pas pour situer des choses uniquement en France. Je pense à Jean-Michel Bourg, Dominique Villoby, Christian Lebras. Bon, ce sont des cinéastes qui sont...
Tu avais vu les films que les poètes... Tu vois ce que c'est que les poètes électriques?
Oui, Bulto, tout ça.
Tu avais vu les films de Bulto?
Oui.
Voilà, très bien. Qu'est-ce que tu avais pensé? Qu'est-ce que tu en avais pensé?
Alors, je les ai vus, mais il y a longtemps. D'accord. Donc, il faudrait que je les revoie. Ben c'est lié à la poésie, hein, il y a une sorte de lyrisme, mais non, je pourrais pas trop en parler. D'accord. Parce qu'il faudrait que je les revoie avant.
Hein, donc, attends, moi je les avais.
Je vais dire des bêtises, mais.
Non,
vas-y.
Mais moi je les avais vus, j'avais trouvé ça d'une banalité, oui. Et d'une ressucée, oui. À l'exception de la couleur qui apparaissait. Tout ça, tous les films dont tu parles sont en noir et blanc.
Oui, sauf. Alors il y a des films qui sont colorés à la main. Ouais. Donc directement sur la pellicule, hein. Donc ça c'est, il y en a quelques-uns, et puis il y a eu des projections aussi en couleur mais qui n'étaient pas d'origine cinématographique, qui donnaient l'impression que c'était un film, mais pas, par exemple dans le cadre du Bauhaus en Allemagne, c'était une école destinée à former les architectes, mais qui était une école tout à fait extraordinaire entre 19 et 33, ce qui a été fermé par partie par les nazis. Il y avait des gens qui enseignaient, comme Kandinsky, Albers. Enfin, Albers était étudiant, mais... bon, il y avait un étudiant, notamment, qui s'appelait Ludwig Hirschfeld-Mack, et qui faisait des projections lumineuses à partir de différents projecteurs de lumière colorés. Hein, et il passait des sortes de... avec le système des pochoirs, des grilles, des pièces à jourer. Et donc, les couleurs passaient à travers ces pièces qui passaient, mais tout était programmé, écrit sur une sorte de partition. Et on avait donc des projections lumineuses, colorées, abstraites. Et donc, ça se passait donc, dans les années 1924-25. Projection en couleur, alors que le cinéma en couleur n'existait pas encore. Mais... c'était avec ces spots, enfin, on parlerait aujourd'hui de light show peut-être, hein. Sauf que c'était avec des programmations très précises, tel projecteur ouvert pendant quelques secondes, qui va se superposer à tel projecteur, etc. Donc on avait des formes très organisées, qui étaient projetées en couleur.
Pour répondre à ma conscience naïve qui a déploré l'absence du burlesque dans ton livre,
ouais, ouais.
Si on exclut les travaux purement expérimentaux, c'est-à-dire ce film avec des grains de sucre, etc., qu'on avait chez Man Ray ou des gens comme ça, qu'est-ce qu'il faut voir ? Le ballet électrique ? Le ballet mécanique,
mécanique.
Pardon, le ballet mécanique, pardon, oui.
Donc dans les années,
oui,
donc,
comme ça, qu'est-ce qu'on peut...
Alors, bon, tous les films dont je parle, bon, je ne sais pas, une cinquantaine, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas évalué, mais bon, ce sont... presque tous des films réalisés par des peintres, par des artistes. Hein. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est qu'ils ont une connaissance, disons, de l'avant-garde dans le domaine des arts plastiques, qui était plus avancé, entre guillemets, dans la mesure où ils étaient plus libres. Hein, parce qu'un artiste qui est devant sa toile, bon, il n'a pas la nécessité d'obtenir du matériel, un producteur derrière qui lui donne de l'argent, etc. Donc il y a Fernand Léger, il y a le film Entr'acte, réalisé par Picabia, et ouais. Sur un petit scénario, mais vraiment minuscule, de Picabia. Mais c'est comme
Satie. Il y a une musique là-dedans.
Il y a une musique de Satie. Voilà,
Satie, ouais. Hein.
Donc la musique est jouée dans la salle, puisqu'il n'y a pas encore d'enregistrement sur pellicule. Donc quand je disais tout à l'heure que le cinéma était silencieux ou muet, en fait, il y avait souvent une musique, mais jouée dans la salle avec des musiciens, un pianiste ou un petit orchestre. Bon. Donc il y a Ruttmann en Allemagne, Walter Ruttmann, Hans Richter, Vicky Engeling, donc Léger, Marcel Duchamp, Man Ray.
Ça, c'est le cinéma vraiment expérimental.
Voilà, le cinéma expérimental, voilà. D'avant-garde, voilà. Dans les années 20, et qui se produit surtout en Europe et plutôt en Allemagne et en France. Hein, c'est là où les lieux sont les plus
riches. Et après, on passe sur des films plus... Même si le mot est toujours pareil, plus ouais. Narratif.
Oui, alors c'est ça. Alors il y a une autre avant-garde qu'on peut appeler avant-garde narrative, voilà. Si on veut. Pour ce qui est de la France, et au même moment, hein, on pourrait parler des films de Jean Epstein, de Marcel L'Herbier, de Germaine Dulac, bon, par exemple. Et puis en Allemagne, les films de Murnau, de von Stroheim, de von Sternberg.
Et les grands,
qui sont des films avec des qualités fortes.
Il y a Buñuel.
Il y a Buñuel, bien sûr.
Il y a Buñuel, voilà. Il y a le Clergyman, la coquille et Clergyman.
Le Clergyman, donc, qui est réalisé par Germaine Dulac sur un scénario d'Artaud.
Ils se sont
un peu
disputés.
Ouais, bon, ouais.
Voilà. Hein, et Étoile de mer aussi.
Étoile de mer de Man Ray, voilà.
Voilà. C'est un film parlant.
Non, mais il y a des cartons.
Il y a des cartons, ça je m'en souviens. Je m'en souviens très très bien. C'était un plaisir.
Bon, merci.
Lire ce livre, oui, et c'est pas du tout ennuyeux. Hein.
Bon,
et je réitère ce que j'ai dit hors antenne, c'est heureusement qu'il y a eu un très bon maquettiste, parce que c'était quand même un travail compact, hein, c'est vraiment un compact. Ouais. C'est édition, Maitre édition, ça se trouve ?
Oui, ben c'est diffusé, comme on dit d'habitude, dans les bonnes librairies, c'est
ça. Dans les bonnes librairies, dans toutes les bonnes librairies.
Notre édition. Alors, le maquettiste, c'est un écrivain, un grand écrivain, donc j'aimerais bien prononcer son nom, c'est Onuma Nemon, ouais. Qui a publié aussi des textes chez Maitret, donc qui est une édition activée par Didier Morin, et qui dirige aussi une petite revue, c'est du même nom, Maitret.
Hein. Cinéma absolu avant-garde 1920-1930, Patrick de Hoss, ben, Maitret édition, et puis aller voir le film qu'elle me pardonne de Maya Deren, qu'elle me pardonne d'avoir écorché son nom tout à l'heure. On peut le voir c'est au musée de Montmartre.
Le film, oui, et je crois qu'il y a encore d'autres films qui doivent être présentés à la Cinémathèque, il me semble, à vérifier le programme. Hein.
Voilà. C'est un très beau film. Hein.
Ah, oui, oui, oui.
Il est très très beau. Eh bien, merci Monique, c'était un plaisir. Un grand merci à Monique en
Camille. Merci Monique.
Et voilà, voilà.
Olli Pietschem ist nicht nach Hause gekommen. Herr und Frau Pietschem singen den Anstatt das Song. Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett, brauchen Sie Spaß, grad als ob man Ihnen eine extra Wurst gebraten hätte. Das ist der Mond über so hoch, das ist der verdammte, fühlst du mein Herzschlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Was täten, was nen Sinn hat und nen Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was nützt dann dein Mund über so hoch? Wo bleibt dann ihr Verdammter, fühlst du mein Herzschlagen Text? Wo ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny?
On ne croit pas aux clous des fakirs, on croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà, on préfère le communard au kir. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On se mouille, on tâche nos chemises. Ça fait bien 100 ans que l'on trinque à la loi de 1905. Nous, on donnerait bien les églises aux sans-abri ainsi qu'aux sans-culottes, ni Dieu ni flotte. On ne craint pas les fûts, les canons, ni le tonnerre de vos dieux, ni les bonbonnes de vin vieux, ni les foudres de Saint-Émilion. Il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Qu'il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Sur on vote rouge à chaque tour, on fait quasi tous les métingues en donnant du poing sur le zinc, notre révolution de velours. C'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. C'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. On fait le tour du monde en ballon, on baptise jamais le vin, on n'a pas besoin des divins, on atteste que la terre est ronde. Qu'ils refourguent à d'autres leur camelotte, ni Dieu ni flotte. Qu'ils refourguent à d'autres leur camelotte, ni Dieu ni flotte. On ne croit pas aux clous des fakirs. On croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au qui. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte.
C'est mes chansons dans tes sourires, tes bras qui m'empêchent de mourir, cette route que je ne savais pas. Un beau bordel organisé qui se fout pas mal des défilés, c'est la solitude à mes pas. Du noir aux ombres de ma folie, mon anarchie. C'est de l'amour sans les barrières, la fraternité sans frontières, les nuits, les jours que je dévore. Une règle de vocabulaire aux conjugaisons libertaires, pour mieux écrire merde à la mort. Le feu dans toutes mes envies, mon anarchie. Elle ne va pas poser des bombes, taguer des vitrines ou des tombes. Aux flics, elle préfère les clous. Mais au point levé des sans-voix, elle joint le sien pour le combat de l'utopie contre les coups. Parce que tout pouvoir est maudit, mon anarchie. Des drapeaux menteurs qui nous bernent, elle connaît trop les balivernes, rouge sillon de la patrie. Aux églises de sang et d'or, elle préfère le maigre décor des bars des copains de la nuit. Elle vous laisse à vos litanies, mon anarchie. Dans tous les lits où elle s'endort, la liberté d'y croire encore a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets pleins les guitares. Le chant de mon cœur s'en partit, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur tes mairies, mon anarchie.
Bonjour à tous, c'est jamais simple de passer après Jehan et Onde de Choc. Enfin, je précise que ce n'est pas Jehan qui chantait Mon Anarchie à l'instant. Hein, Jehan, c'est l'animateur d'Onde de Choc, donc il vient de se terminer il y a quelques minutes. Donc Nicolas, en avance de Trou Noir pour quelques annonces de la librairie Publico. La librairie Publico, librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, métro République. Oberkamp ou Fille du Calvaire, bus 91 ou 96. Dans les animations à venir, ce mercredi 21 juin à 20h, outre que ce sera aussi la fête de la musique, et bien ce mercredi à 20h, à la librairie Publico, vous pourrez voir, assister à la deuxième partie d'un film qui s'appelle Notre Terre mourra proprement. Décidément, je bafouille aujourd'hui. Notre Terre mourra proprement, un documentaire de Catherine Fumet et François Guéroré, aka le Comité Central. Et donc, c'est la deuxième partie qui vous est proposée par, par l'Université populaire libertaire du 11e arrondissement commune de Paris. Et ce film est une histoire de la lutte contre les déchets nucléaires, ou si on préfère, une histoire des différents projets de recherche de sites d'enfouissement par l'ANDRA, jusqu'au plus contemporain et actuel projet CIGEO à Bure. Donc voilà, projection débat, Notre Terre mourra proprement, et c'est mercredi à 21 juin à 20h. Autre animation d'importance ce week-end à la librairie Publico, à l'approche des vacances d'été, Publico Librairie du Monde Libertaire clôt symboliquement sa saison d'animation par un moment festif représentatif de son action au cours de l'année. Ce sera donc ce samedi 24 et le dimanche 25 juin de 11h à 19h sans interruption. D'une part, tout au long de ces deux journées, ce sera une grande braderie de livres et de CD. Et puis il y aura un certain nombre d'animations spécifiques. Samedi 24 juin à 14h, présentation de l'exposition Portrait, quand se conjuguent art, philosophie, sciences et politique. Une exposition de Marie-Claire Calmus, visible jusqu'au 29 juillet. Et donc, elle sera présente pour inaugurer et présenter cette exposition à 14h. Le samedi, toujours à 15h, projection d'un film Après les nuages. C'est un film imaginé, tourné et fabriqué par les Scotcheuses. Les Scotcheuses sont un groupe qui viennent de la région de Bure et qui tournent des films et les montent en Super 8. Donc ce sera une projection Après les nuages à 15h ce samedi. Ensuite, ce n'est pas la fête de la musique pour rien, puisqu'à partir de 18h et jusqu'à 20h et peut-être un peu après, vous aurez droit à un DJ set qui s'appelle Queer and Loud, au cœur des musiques qui témoignent des luttes LGBTQIA+, et de la culture queer. Ça, ce sera samedi 18h, 20h. Dimanche 25 juin à 16h, outre la braderie de livrets de CD dont j'ai déjà parlé, qui aura commencé dès le samedi, vous aurez droit à la projection d'un film qui s'appelle Mon 18e sans bruit. Il s'agit du 18e arrondissement, un film de Sandrine Malika Charlemagne. Et la projection de ce film sera suivie de la lecture musicale d'extraits de La petite ouvrière métisse, toujours de Sandrine Malika Charlemagne, un livre publié aux éditions La Rumeur Libre. Voilà, donc c'était la programmation, c'est samedi 24 et dimanche 25 juin de 11h à 19h, de Publico en fête d'été. J'en profite pour une autre petite annonce, parce que j'ai trouvé un flyer en arrivant à la radio. Ce même week-end, et l'un n'empêche pas l'autre, du 22 au 25 juin, c'est le festival Django Reinhardt en pays de Fontainebleau. J'imagine qu'il y a plusieurs lieux, mais vous ne manquerez pas de trouver où ça se passe exactement, à proximité de Fontainebleau. Il y a un magnifique programme, outre de nombreux musiciens de jazz manouche, j'ai vu au passage Birelli Lagraine, et il y en a beaucoup d'autres, Kusi Weiss, Minor Singh, Roby Lakotos et son ensemble, The Reinhardt Synthi Jazz Ensemble, mais il y a aussi des gens éminents et passionnants à entendre, par exemple Roberto Fonseca, pianiste cubain, Avishai Cohen en trio, pianiste aussi, qu'est-ce que j'ai vu, Yuri Buenaventura et Roberto Fonseca du côté des Cubains, Fatoumata Diawara, Hugh Coltman, voilà, plein de choses passionnantes. C'est du 22 au 25 juin et les 24 et 25 juin. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller à la fête d'été de Publico. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine. Enfin, à tout de suite pour Trou Noir avant, tout d'abord.
Oui, merci Nicolas pour ces annonces. Trou Noir, ça va démarrer à 16h. En attendant, un tout petit peu de musique pour patienter.
Noir les yeux, blond les cheveux, par leur père ou leur mère, mi-gauloise, mi-rebeu, autant de sœurs et frères. 4,5 chacune, si on dit que les entiers comptent pour un win et les demi pour moitié. Les jaloux médisants disent qu'elles s'y mettent à deux pour avoir 20 ans dans leur CM2. Cousine de palier et frangine de classe, voisine d'escalier et copine d'en face. Cousine de palier et frangine de classe, voisine d'escalier et copine d'en face.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup pendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue. Ce gentil sobriquet fut trouvé un matin par Mademoiselle Briquet, maîtresse de CE1. Ça racontait tellement leur façon d'encaisser, sourire désobligeant et conseil avisé.
Jennifer et Samira comme ça,
faut déjeuner le matin.
Jennifer et Samira comme ça,
allez, file te laver les mains.
Jennifer et Samira comme ça,
eh ben ma douce, tu t'es couché trop tard.
Jennifer et Samira comme ça,
oh, elle est encore dans le coltard.
Jennifer et Samira comme ça,
et les sous d'un cantime.
Jennifer et Samira comme ça,
mais tu parles, elle a même pas de crayon de mine.
Jennifer et Samira comme ça.
Eh hey, dis donc, tu fais comme ça chez toi?
Jennifer et Samira comme ça.
Tu manges avec les doigts?
Elles ont laissé causer, mais n'en pensaient pas moins. Elles ont tout avalé, la peau et les pépins. Sauf qu'à 6 ans et demi, elles torchaient les petits frères, et qu'elles savaient aussi faire les courses inter. Sauf qu'à 6 ans et demi, elles torchaient les petits frères, et qu'elles savaient aussi faire les courses inter.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue. Maintenant qu'elles ont grandi, c'est devenu des gagneuses, mangeuses de mots hardies, hautement talentueuses, des terreurs de gymnase qui écrasent imparables les petites dribbleuses bourgeoises qui ont peur de la baballe, des tchatcheuses avides qui rigolent à pleines dents, des cacahuètes arachides qu'elles sont seules à comprendre, des dévoreuses de vie qu'assimilent en urgence, qu'ont pas le temps de faire le tri pour l'instant tout fait ventre. Des dévoreuses de vie qu'assimilent en urgence, qu'ont pas le temps de faire le tri pour l'instant tout fait ventre.
Jennifer et Samira comme ça,
les sketchs à Jamel et les fables de La Fontaine.
Jennifer et Samira comme ça,
le son à Fosbury, les chansons de Laurie.
Jennifer et Samira comme ça,
la recette des Alabia, les gros mots Chaouia.
Jennifer et Samira comme ça,
l'histoire de Jean Moulin, d'Arafat ou d'Isengrin. Leurs frères font des conneries, leurs cousines se marient au bled, elles tiennent l'équilibre sur cette corde raide.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous secouer nos oreillers.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous changer l'air.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous renouveler.
Jennifer et Samira comme ça,
notre vocabulaire.
Jennifer et Samira comme ça, Jennifer et Samira comme ça.
Je pense aux enfants sans enfance, hommes sans liberté, à toutes ces non-assistances, à personne en danger. Je regarde toute cette solitude qui est devenue presque comme une habitude. Toutes ces âmes en souffrance, condamnées dès la naissance à vivre du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté. Je pense à ces enfants sans rêve, je pense à tous ces gens pris au piège, dans la seule différence en fait, c'est d'être né sur la même planète. Mais du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté. Je sais bien, je suis pas devenu fou. C'est pas une chanson qui va changer tout. Mais si l'on ne fait rien, si l'on ne dit rien, si l'on s'en fout, on est encore moins que rien du tout. Je pense aux enfants sans enfance, aux hommes sans liberté, dont la seule différence en fait, c'est d'être né sur la même planète. Mais du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté, du mauvais côté.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Trou Noir vous propose aujourd'hui une émission que nous avons enregistrée dans notre deuxième studio il y a quelques jours. Donc il est absolument inutile de téléphoner pour parler à nos invités, ils ne sont pas présents. Et je vous souhaite une bonne écoute.
Après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro. Voilà, aujourd'hui, trois invités formidables. Hein. Donc, nous allons parler d'une revue qui a eu beaucoup d'impact. En tout cas, moi, j'ai tous les numéros. Elle était très intéressante. Et puis, peut-être, hein, il y aura un nouveau numéro qui va sortir un jour. Enfin, bref, nos invités en parleront. Donc, la revue Itinéraire sans S. Une vie, une pensée. Voilà. Et donc, on va faire un peu l'historique avec trois personnes qui ont participé à divers numéros, voire depuis le début pour certains. Et puis, on prendra au hasard un numéro qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs sur Ricardo Flores Magone à la fin de l'émission. Donc, nos trois invités. Bonjour Didier.
Bonjour Serge.
Bonjour José.
Bonjour Serge et bonjour
et
à
bonjour
tous.
Olivier.
Bonjour Serge.
Donc, c'est super cette émission parce que ça nous a donné l'occasion en plus de nous retrouver. On se connaissait tous un peu, bien sûr, mais on ne s'était pas vus depuis un certain temps. Voilà. Donc, effectivement, se lancer dans une revue de bonne qualité, à la fois en iconographie et tout ça, ça se fait pas comme ça, donc je pense qu'il y a eu tout un certain nombre d'épisodes qui vous a déjà donné envie de lancer cette revue, et puis bon, parler un petit peu comment quand on veut faire une revue libertaire de bon niveau, à la fois sur le contenu et puis sur aussi sa présentation, comment vous y êtes pris, quels épisodes se sont passés.
Ouais, on va dresser un petit peu le contexte, voilà, de l'éclosion de cette idée. Bah, on était tous anarchistes à partir des années 70, en gros, hein, un peu plus, un peu moins. On connaissait La Rue, qui était la revue du groupe Louise Michel, qui paraissait depuis 68, une revue très intéressante, qui avait une parution très régulière et qui nous a ouvert un petit peu aux idées anarches. Et donc l'AFA, à laquelle les quatre premiers, disons les quatre premières personnes qui ont commencé l'équipe rédactionnelle d'Itinéraire, les quatre étaient à la Fédération anarchiste. Ça a changé par la suite. Et donc, on a baigné dans l'atmosphère un peu dynamique de l'époque, hein, de la Fédé. Et autour de nous, on voyait